Bonjour à tous et bonjour à toutes, ou bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau conseil de famille. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'adolescence, un continent complexe, sans cesse en mouvement, dans un monde qui bouge lui aussi. Une période ingrate pour certains, avec un point parfois aigu que l'on appelle généralement la crise adolescente. C'est aussi un entre-deux fait de découvertes, d'expériences avec soi et les autres, des contradictions et des prises de risques, avec lesquelles les parents vont devoir aussi s'adapter avec plus ou moins de souplesse. Et pour découvrir ce merveilleux continent de l'adolescence, je vous propose de partir avec mes exploratrices du moment. Bonjour à vous. Tout d'abord, on accueille Valérie Orvin de l'association Grandir Ensemble, formatrice en éducation relationnelle et émotionnelle. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Anne-Marie Kstams, coordinatrice pour le programme de réussite éducative de l'ODEV.
Bonjour.
Et enfin, Béatrice Alvar, coordinatrice de l'école des parents et des éducateurs.
Bonjour.
Alors pour démarrer cette émission Conseil de famille, eh bien on va s'attaquer à ce continent qu'est l'adolescence. Qu'est-ce que vous avez à en dire de l'adolescence ? Vaste continent, n'est-ce pas ?
Oui,
certes.
Certes, Valérie.
Ah ben l'adolescence, c'est un vrai passage, en un mot, en deux mots, enfin c'est un passage quoi, qui est essentiel pour aller vers sa vie d'adulte. C'est quelque chose qui est assez nouveau, l'adolescence. En fait, ça a apparu dans les années post-50 avec James Dean et La fureur de vivre. Le mot teenager, ça n'existait pas avant. Et en fait, quand on devient jeune adulte, c'est-à-dire que les hormones sexuelles ont envahi notre cerveau et qu'on devient en capacité de procréer, on devient un jeune adulte. Et c'est ce qu'on appelle maintenant l'adolescence. Et ça, en plus de du remaniement du cerveau, ça fait un vrai chantier là-dedans. Et c'est vraiment quelqu'un de nouveau qui arrive là. C'est le moment où nous, les parents, on reconnaît plus nos enfants.
C'est un chantier qui peut durer longtemps aussi.
Oui.
Hein ? Au grand dam des parents.
On sait au niveau du cerveau maintenant hein, que tout ça se termine. Enfin, le cerveau devient mature vraiment aux alentours de 25-28 ans. Donc ça met vraiment du temps à se mettre en place. Mais c'est vrai qu'il y a un moment qui est très, très, très particulier et très 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 agité, très 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 perturbant pour tout le monde, enfin voilà. Et en même temps c'est génial parce que c'est un moment où on peut tout apprendre, on peut tout découvrir, le monde est à nous quoi.
Alors je disais que c'était un moment qui durait parce qu'on dit que l'adolescence démarre de plus en plus tôt et finit de plus en plus tard. Béatrice Alvar, qu'est-ce que tu en penses ?
Oui, Valérie le disait bien, c'est un passage. C'est un passage qu'on a identifié il n'y a pas si longtemps que ça dans notre histoire et qui commence effectivement tôt, qui souvent démarre avec l'arrivée des hormones, de la puberté, avec l'entrée en sixième. Les parents identifient bien ça, il y a une espèce de bascule à ce moment-là. Et on va
surtout,
traverser
surtout
ça.
Surtout chez les filles, hein, je crois, pour la sixième, c'est plus tôt. Peut-être on dit hein, que les filles sont plus matures plus tôt.
Parce que là, je pense qu'on est aussi beaucoup influencé par les hormones et que cette histoire de bascule et d'hormones, les filles y sont confrontées, on va dire, quelque part, plutôt que les garçons. Et pas de la même façon.
Oui. Anne-Marie, dans le programme de réussite éducative, tu croises beaucoup d'adolescents.
Oui, on a beaucoup d'adolescents et je rejoins Béatrice en disant que voilà, il y a cette puberté qui est quelque part le démarrage de l'adolescence qui est basé sur du physique, le physiologique, les hormones, etc. Où on peut peut-être distinguer justement puberté et adolescence en disant que la puberté, elle n'est pas plus longue qu'avant, physiquement parlant, et c'est l'adolescence en fait qui s'allonge, donc c'est psychologiquement. Mais on s'ancre quand même sur du biologique, hein, quand même. Hein. Enfin, souvent les filles l'entrée dans l'adolescence, c'est quand même les premières règles. Donc souvent.
La transformation
du corps qui fait que il y a cet élan aussi psychologique qui va avec, mais pas que. Je pense qu'il faut pas le réduire non plus que à ça.
Je travaille avec un psychiatre qui dit que la transformation, justement, cette adolescence, cette transformation du corps chez les femmes, elle se voit. Avec les caractères sexuels, la poitrine, les hanches, etc. Et alors que chez les garçons, elle s'entend, parce que c'est vrai que plus tard, ils passent par cette transformation de la voix. On dit qu'il mue. C'est souvent étonnant, d'ailleurs, d'entendre cette voix d'un coup d'homme, mais qui se transforme pas tout de suite.
Voilà, en général, pour les garçons, effectivement, c'est plus tard. C'est aux alentours de la classe de quatrième, cinquième, quatrième.
Même plus tard, parfois.
Avec toute la gêne que ça occasionne. Le monde de l'adolescence, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup être confronté à la transformation de son corps et tout ce que ça entraîne, comme tu disais, Anne-Marie. De gêne et tout ce que ça comporte au niveau psychologique.
Le regard de l'autre,
tout ce que ça comporte aussi au niveau relationnel. Pour l'instant, on n'a pas encore parlé des parents, mais on va y venir très largement. Tout ce que ça comporte de remaniement des relations entre les enfants, donc les ados et les parents.
Chez les garçons, on voit quand même, enfin physiquement, effectivement, il y a la voix qui change, mais il y a aussi les épaules qui s'élargissent, bien sûr les poils qui arrivent, la barbe, les poils sous les bras. Les garçons, il y a beaucoup de comme c'est tout un brassage d'hormones, une odeur aussi très forte chez les garçons au moment de l'adolescence. Enfin, on peut reconnaître ça. Et puis ils grandissent d'un seul coup. Alors il peut y avoir les pieds qui grandissent très fort en premier.
Oui,
puis voilà.
Et alors
au niveau du schéma corporel, ça peut être difficile pour eux. Ils se cognent dans les portes. Ils n'ont pas encore intégré leur nouveau corps qui a grandi d'un seul coup. Et c'est assez drôle. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le moment où nous les parents, on reconnaît pas nos enfants. Quoi. On se demande qui est cette personne qui d'un seul coup traverse à midi et demi en venant de se réveiller la pièce avec les cheveux ébouriffés et une chambre tout en bazar et enfin voilà quand on les reconnaît plus. C'est vraiment le moment de chercher qui ils sont quoi.
Et alors l'adolescence est souvent un synonyme, toi tu disais de bascule Béatrice, mais parfois de coupure pour les parents, de cassure avec des parents qui ont du mal à voir leur enfant grandir, finalement, à accepter...
Ça peut être vécu comme ça, effectivement.
Donc, à accepter ces changements et cette prise d'autonomie, de liberté qu'on retrouve chez les adolescents. Et c'est un peu le conflit générationnel.
Oui, il peut y avoir de ça. Pas que, mais il peut y avoir de ça.
Valérie.
C'est le moment chez les parents, plus que jamais, de se poser la question de ce qui est vraiment important et ce sur quoi on va tenir notre cadre. Parce que c'est le moment de lâcher beaucoup de choses, sinon on se frite beaucoup avec eux, quoi.
Oui, alors en même temps, il faut lâcher et en même temps, il faut être là.
On est bien d'accord. Tout ce qui est compliqué. Très, très présent, oui. Très complexe. C'est une période très, très complexe.
C'est ça, donc
pour les parents.
Il faut être là, mais pas trop. Il faut accompagner, mais il ne faut pas non plus trop coller.
Il faut être là quand ils ont besoin. C'est-à-dire que tant qu'ils étaient petits, on peut les faire patienter quand ils ont besoin de nous. Et quand on revient vers eux, ils sont tout contents, ils nous accueillent. À l'adolescence, quand ils viennent nous solliciter, si on ne répond pas immédiatement, mais qu'on arrive 10 minutes après, c'est trop tard.
Voilà.
Et oui, on passe de l'enfant qui s'agrippe, qui a vraiment besoin... de se rassurer dans nos bras, à l'ado qui nous dit « mais lâche-moi
!» C'est ça.
Et ça, c'est pas facile.
Non, c'est pas facile.
Souvenons-nous de notre adolescence. Et justement, on retrouve une adolescente qui, elle, a su un petit peu sublimer, enfin très très bien d'ailleurs, sublimer son mal-être avec de la musique et des chansons. On écoute tout de suite Billie Eilish avec « Bad Guy ».
On both my knees, for you don't say thank you, okay.
said, "Who's your dad type?" "I'm the bad guy." Duh. I'm wearing your cologne.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, on a longtemps ignoré cet âge de l'adolescence. En effet, à l'époque, Moyen-Âge, Renaissance, etc., on passait directement de l'enfance à l'âge adulte. Et pourtant, au XIXe siècle, on parlait de cet entre-deux comme un âge, alors vous allez voir, je cite, hein, bâtard, gauche, ingrat, aussi bien physiquement que moralement, avec un manque de lucidité, une propension à la rêverie, l'inexpérience associée à l'explosion des passions, tant craint par la bourgeoisie de l'époque, avec cette expression de la sexualité, bien sûr, des amitiés particulières chez les garçons ou encore l'hystérie féminine qu'il fallait contenir, bien sûr, avec des rites de passage. Alors, à l'époque, c'était de la première communion à l'armée pour les garçons. Et puis pour les filles, eh bien, mesdames, je vous le donne en mille, c'était le mariage hein, qui devait nous cadrer. Alors, il faudra attendre la fin du 19e siècle, début 20e, pour que des psychologue se penche sur cette période et la démocratise ou la dédramatise et que toute une série d'initiatives qui visent à éduquer cette jeunesse soient mises en place, l'école obligatoire jusqu'à 14 puis 16 ans, le développement de l'éducation sportive, les camps de vacances pour adolescents, etc. Donc petit à petit, les représentations au fil des ans eh bien, ont évolué en même temps que l'adolescence, qui est, je le rappelle, une période de grands changements physiques avant tout. Eh bien oui, notre cher petit garçon d'hier est devenu cet ado boutonneux, léthargique et mal dans sa peau, qui squatte le canapé avec un téléphone griffé dans les mains. Cette période est sûrement la moins étanche aussi à notre société. Aujourd'hui, ils sont hyper connectés. Ils interagissent avec le monde entier via les réseaux sociaux et Internet. Et ça, bien souvent, ça nous dépasse et ça nous énerve. Période très complexe de la vie car elle est avant tout un mouvement de rupture avec l'enfance sans pour autant être encore dans l'âge adulte. Cet entre-deux se résume pour certains à une crise et pour les parents à ce que j'appelle une course de fond. Car elle peut durer, cette crise, et il faut tenir bon tout en réajustant sa course, son accompagnement. Alors bien sûr, chaque ado est différent, hein, mais on peut distinguer quand même plusieurs points saillants. L'opposition, la recherche d'indépendance, de liberté qui passe par la remise en question des règles que l'on croyait acquises, les fameux conflits générationnels dont j'évoquais évoquais tout à l'heure un petit peu. Alors, c'est là que les parents sont transformés en marathoniens. Ils vont devoir réajuster leurs pas, leur énergie, se mettre à l'écoute sans étouffer. Cet être en devenir qui revendique son aspiration à la liberté, à l'amour et à différentes rencontres. Non, vous n'éviterez pas les claquages, les essoufflements, les mises à distance. Et quand cette course de fond devient impossible ou difficile, il est peut-être temps de penser à la course de relais et de vous faire aider pour aider votre ado. Alors courage, hein, nous sommes tous passés par là. Souvenez-vous de votre propre adolescence. Sauf qu'il ne faut pas perdre de vue que l'ado que nous étions est encore très différent de l'adolescent d'aujourd'hui. Je reçois tous les jours des adolescents à la maison des adolescents. Et je reçois tous les jours des êtres sensibles, engagés, en demande de reconnaissance, pétris de créativité, qui cherchent avant tout des clés pour communiquer et se faire comprendre, et qui doivent faire avec leur transformation, leur évolution et celle d'un monde en perpétuel changement. Moi, je les adore. Les comprendre, les écouter avec bienveillance et repenser à notre propre adolescence peut leur permettre de les aider à traverser ces années sans nuire à personne et surtout pas à eux-mêmes. Et vous me likez, ça me fait plaisir quand même. Je vois les pouces levés.
Deux mains à la fois en l'air. Deux pouces en l'air.
Merci. Qui veut réagir un peu à cette chronique? Moi, quand je dis je les adore, c'est vrai. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les adolescents. Bon, ça tombe bien, hein, je travaille avec eux. Oui. C'est un choix. C'est un choix, non, mais c'est un choix quand même.
Non, ils sont vraiment très chouettes. Nous, on en a pas mal aussi au PRU. Ils sont tous très différents. Ils ont tous des questions. Il y a des questions quand même, des points saillants qu'on t'a relevés, hein. Je suis entièrement d'accord, mais ils sont bien souvent très chouettes, sensibles, ils ont vraiment envie de changer plein de choses et d'avancer et devenir des adultes. Ils ont quand même cette envie de devenir des adultes bons, on va dire entre guillemets, hein, voilà. Et c'est pour ça que je me dis qu'il faut toujours garder confiance, quoi, en ces ados qui vont y arriver, qu'ils ont des difficultés qui sont pas insurmontables, qu'il faut les soutenir évidemment, et que c'est pas facile pour les parents. Ça, on a le droit de le dire, et on a le droit de dire en tant que parent que c'est pas facile. C'est dire aussi qu'on n'est pas seul, que pour d'autres c'est pas facile non plus.
C'est la fameuse course de fond, faut tenir.
Voilà, cette course de fond. Donc très belle chronique.
Ouais, j'aime beaucoup l'image de la course de fond. Et sachant qu'au bout d'un moment, ça va s'arrêter, en fait, parce qu'on a l'impression que quand on est parti là-dedans, c'est pour toute la vie. Mais non, ça va s'arrêter, quoi. Et que plus on va mettre de la souplesse, plus on va mettre effectivement de l'écoute, et plus on va conserver en même temps ces temps dédiés qu'on partage avec nos enfants, des temps importants de jeu avec eux, de partage, on regarde quelque chose ensemble, puis on en parle, d'aller visiter, se balader, enfin faire des choses, de conserver ces moments-là de partage, c'est hyper important, parce que si on se retrouve avec juste l'autorité à ce moment-là, bah c'est là que ça clash, qu'il nous claque la porte au nez, qu'on n'a plus d'espace de partage. Et comme à l'adolescence, on quitte les parents pour se diriger vers nos pères, P.A.I.R., pour vivre des choses avec eux, c'est important qu'à la maison, on soit vigilant à conserver des moments de partage, pour qu'il y ait toujours cet endroit où l'enfant, l'ado, va pouvoir se confier, venir dire, et qu'il sache que son parent est une personne relais, quelqu'un, un adulte fiable, un référent, à qui il va pouvoir poser ses questions et discuter, quoi.
Alors, je peux pas m'empêcher de rebondir là-dessus, parce que je reçois aussi des parents, et ces parents me disent « mais il ne veut plus rien faire
et
avec
oui,
nous ».
Bien sûr qu'ils veulent pas. Sur le coup, ils veulent pas. Et puis, en fait, par exemple, quand on les emmène balader, visiter des choses, partager des moments, souvent après, ils sont les derniers à pas vouloir rentrer, en fait. Ils prennent plaisir. Mais c'est sûr que la facilité du monde dans lequel ils sont, d'être sur un écran, en contact avec les copains ou dans les jeux vidéo, ou sur les réseaux sociaux pour les filles. D'ailleurs, à ce propos, il y a un bouquin qui est vachement intéressant qui s'appelle « Pourquoi les garçons perdent de pied et les filles se mettent en danger ?» C'est un livre très actuel sur la vie de nos enfants dans les réseaux sociaux et avec les jeux. Je me souviens plus de l'auteur, là, tout de suite, ça me revient pas, mais c'est juste une espèce d'étude de cas qui nous montre dans quel monde vivent nos enfants. Et ça, c'est important d'aller voir, de vraiment se rendre compte. On n'est plus du tout au même endroit que nous, on était quand on était ados. Le monde a beaucoup
et
bougé,
oui,
quoi.
Beaucoup. Tout à fait. Mm. J'en profite pour dire qu'on donnera une petite bibliographie en fin d'émission. Béatrice, tu voulais réagir?
Oui, alors Laurence, merci oui, pour ta chronique. J'aime aussi, moi, beaucoup les retrouver, ces ados, dans le cadre du point accueil écoute jeune, avec nos actions qui se complètent bien à toutes les deux. Et j'aime aussi retrouver leurs parents, mes parents d'adolescents, pour leurs capacités, leurs ressources qu'on accompagne, en fait, pour cette traversée qui dure, on l'a dit, plus ou moins longtemps. Parce que je pense que plus je vieillis, alors c'est peut-être que je me laisse de plus en plus attendrir, j'en sais rien, mais plus je vieillis et plus je suis impressionnée de la capacité, quelle que soit l'histoire de chaque adolescent et de chaque parent, à trouver des ressources, des solutions. Et finalement, je me dis que je suis surtout un témoin, un activateur et quelqu'un qui reconnaît ses capacités. Et finalement, les choses se font, en fait. C'est pas nous qui leur disons, faut que vous soyez comme ça avec votre ado, faudrait que vous fassiez comme ça, etc. C'est eux et qui trouvent comment faire. Et ça, je trouve ça de plus en plus chouette et merveilleux même.
Il y a une volonté vraiment hein, de la part des parents de faire de leur mieux toujours. Et les parents font de leur mieux. Et effectivement, je vois aussi beaucoup de parents qui sont très observateurs, très, très à l'écoute. Et même quand il y a... entre guillemets, de la crise, c'est-à-dire des cris, des portes qui claquent et tout ça. Ils cherchent à comprendre quoi, ce qui se passe pour leurs enfants. Et c'est vrai que nous, on est là pour accompagner ça et que, comme tu dis, activateur, j'aime bien ce mot, ce truc d'être là et de juste permettre aux parents d'avoir un espace pour se poser, prendre un petit peu de recul et puis du coup voir émerger, laisser émerger les solutions ou ce qu'ils vont pouvoir mettre en place à la maison, comment ils vont se comporter.
Sans se sentir jugé.
Ah oui, surtout pas. Tout le monde rame. Hein. Enfin, je veux dire, on n'a pas appris à faire ça, quoi. Donc, bien sûr.
Alors, les parents d'aujourd'hui ne sont pas non plus les parents d'hier. Hein. On parlait de l'adolescence. Mmh. On n'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes ados. Ils vivent pas la même adolescence que nous. Être parent aujourd'hui, c'est aussi être parent d'un ado dans un monde très très différent. Mmh.
Oui, mais c'est toujours... De toute façon, je crois que pour chaque génération, les jeunes
on
sont...
On peut se dire ça, absolument.
Voilà. Bon, les choses se sont un peu accélérées, hein, avec le numérique qui s'est très vite développé, certaines choses qui se développent plus vite qu'avant. Mais n'empêche que je pense que on peut remonter avant Jésus-Christ pour décrire les jeunes qui ne valent rien, qui n'ont déjà plus de politesse, etc. Enfin, ça a toujours été quoi, l'incompréhension de cet âge-là. Des générations d'avant a toujours existé, donc je pense que c'est quelque chose qui fait partie de l'humain finalement, de ce passage qu'on nous on a vécu dans une autre époque n'est pas le même passage pour la génération suivante et qui fait qu'on a du mal à les comprendre aussi.
Je pense qu'on a du mal à les comprendre, Anne-Marie, parce que ils sont le futur.
C'est ça.
Ils sont le futur et soit on a la réaction d'avoir envie d'y aller avec eux dans le futur, soit on peut avoir la réaction d'être, et c'est tout à fait humain, hein, d'être frileux et c'est d'avoir peur d'y aller. Mais c'est ça l'adolescence, c'est cette bascule dans le futur. Et parce que effectivement, on avait des repères avec son enfant qui était dépendant de nous-mêmes, etc. Et là, c'est un être vraiment en devenir.
Il faut accepter.
Et
aussi,
il faut l'accepter.
Voilà, il faut accepter que cette enfance se détache et devienne ce qu'il doit devenir lui-même. Plutôt l'encourager à ça. À quel moment on peut se faire aider? Qu'est-ce que vous pensez de par rapport à ça? À quel moment le parent doit-il se faire aider?
Alors, moi, je me dis que c'est un moment où il n'y a pas de moment pré... c'est difficile de dire un moment, mais c'est un moment où, effectivement, on sent que on n'y arrive plus, qu'on se sent démuni, qu'on se sent découragé et... où on a besoin de retrouver ses ressources, de rencontrer quelqu'un qui va nous permettre encore une fois, pas de nous dire il faut faire comme ci, comme ça, mais nous permettre de retrouver confiance en nous et de retrouver nos ressources là où on a l'impression qu'on n'en a plus et où on perd confiance en soi. Alors, voilà, moi, je le verrai comme ça, mais peut-être vous avez...
Je suis assez d'accord avec ça. Et en même temps, ça permet aussi, quand on est accompagné comme ça, de pouvoir avoir un regard nouveau sur cet enfant qui devient un adolescent, parce que parfois on ne voit que les défauts, il se lève tard, il est crade, elle fait rien,
on sature,
ceci cela, voilà, quand on sature. Donc on peut aussi s'y préparer, c'est-à-dire qu'on peut aussi aller se faire accompagner en amont pour savoir ce qui va se passer un petit peu et s'y attendre, se laisser moins surprendre, on va dire. Dire, ah ouais, je me rappelle, on m'avait dit, d'accord. Donc du coup, ce comportement-là. Et aussi, ce qui est important, je trouve, pour les parents, c'est que le moment où vraiment on a juste envie de le plaquer au mur ou des choses comme ça, c'est de se rappeler que ce bébé adorable qu'on avait dans les bras, c'est la même personne, en fait. Et que c'est juste la même personne qui a grandi, et de recontacter l'amour. Et de recontacter cet endroit d'amour inconditionnel qu'on peut avoir envers cet enfant et se dire, ok, du coup là, je respire un bon coup. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire ou qu'est-ce qu'elle est en train de me dire à travers ce comportement? Toujours pareil, qu'est-ce qui se passe pour toi? Parce que l'ado, lui, il est juste emporté par, hein, toujours pas dans son truc. Et toujours pareil, hein, pour apprendre à prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire à devenir autonome, savoir faire ses choix, qui je suis, etc. Pour apprendre à prendre les bonnes décisions, l'enfant a besoin de prendre des décisions et non pas d'obéir à des ordres. Donc comment je vais ouvrir mon cadre, comment je vais ouvrir pour que l'ado puisse explorer et aller vers qui il est, justement, hein. Vous parliez de cette personne qui est déjà là, mais qui est en train de s'affirmer. Et du coup, pour offrir cet espace-là dans le cadre familial avec les valeurs de cette famille, c'est toutes ces questions-là. Comment? Et puis, qui es-tu? Est-ce qu'on connaît vraiment nos enfants? Comment on va? Parce qu'on imagine qu'ils sont comme ci, comme ça, mais en fait, eux-mêmes ne le savent pas. Donc, nous, en vrai, on ne peut pas le savoir. Donc, découvrir cette personne. Qu'est-ce qui t'anime? Qui tu es?
Oui,
ah, c'est passionnant.
Oui, puis il faut faire le choix aussi de rebattre les cartes.
Hein, oui,
c'est-à-dire que
complètement.
On est pétri de notre propre éducation,
bien
mais
sûr.
En même temps, il faut faire attention. Voilà, les ados sont pas les mêmes, la société non plus. Mm-hmm. Il faut revoir un peu cette éducation, en tous les cas, la manière dont on accompagne ses propres enfants.
C'est ça. Et au-delà de, on aimerait qu'ils soient comme ci ou comme ça, ou on préférerait selon nos valeurs, c'est de quelles capacités et compétences j'aimerais que mon enfant soit doté. Quelle que soit la société dans laquelle il va vivre, parce qu'on n'en sait rien en fait, hein, ce qu'ils vont vivre quand ils seront adultes. Donc voilà, au-delà de les préparer à ce qui se passe là maintenant, c'est de quoi j'aimerais, voilà, comment je peux l'accompagner pour qu'il développe vraiment qui il est et qu'il sache faire des choix, quoi, et se positionner.
Alors, on disait qu'on pouvait se faire aider. Bon, bien sûr, il y a des professionnels comme vous et moi, mais des fois, l'aide, ça peut être tout simplement quelqu'un de la famille, ça peut être un voisin, un ami, une amie. Qui peut prendre le relais sur cette période un peu parfois critique pour certains. Je pense aux mamans, par exemple, qui sont toutes seules avec plusieurs enfants, dont des ados en crise. Ça peut être très, très important et sauver la relation, hein, avec ce relais.
Ah oui, 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 clairement. À l'étranger, par exemple, on a mis en place les référents, des référents pas officiels, quoi. Enfin, pas des référents professionnels, mais quelqu'un dans la famille qui fait le relais avec cet ado, qui est là, qui peut l'accompagner, qui le voit régulièrement, qui s'en occupe, justement pour créer des relais dans les ressources propres de la famille.
Ouais.
Voilà.
L'entourage.
Et des relais inconditionnels aussi, c'est-à-dire c'est pas une aide qui va partir à un moment. C'est quelqu'un avec qui on va tisser une relation un peu plus privilégiée, comme on avait à une époque les parrains, les marraines qui avaient ces rôles-là, que l'enfant choisit lui-même, ce qui est important à cet âge-là aussi. Mmh. C'est pas quelque chose qui lui est imposé. Et je trouve que c'est très intéressant comme position, effectivement, de se dire, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un pour toi avec qui tu t'entends bien, qu'on pourrait demander être un petit peu ton tonton, ou on l'appelle comme tu veux, comme on veut. Ton parrain, ton copain, ton poteau, enfin voilà, on trouve un nom, devenir un peu le référent de cet enfant. si les besoins ne sont pas encore aussi importants qu'un professionnel.
En tout cas, une autre personne ressource que les parents. Et ça, ça soulage beaucoup les parents aussi. Du coup, ça allège.
Oui.
Quelle bonne idée.
C'est la notion de tierce personne, effectivement. Et on revient aussi à la notion de coparentalité. Du fait que, dès le départ, quand on est parent, c'est important de ne pas être tout seul. Que ce soit effectivement avec des personnes de l'entourage ou des professionnels. Et surtout dans des moments comme l'adolescence où effectivement il y a de la confrontation. L'adolescence, c'est beaucoup ça. Donc faire référence à des tierces personnes, c'est quelque chose d'essentiel.
Alors, on peut s'aider aussi, on le disait, de bouquins, de livres à ce sujet. Alors, il y a Isabelle Filosa, qui est bien, bien connue dans l'éducation positive des enfants, avec cet ouvrage « On ne se comprend plus, traverser sans dommage la période des portes qui claquent entre 12 et 17 ans ». C'est paru chez Marabout. Le fameux complexe du homard de Françoise Dolto, qui date un peu, mais enfin en même temps qui fait quand même livre de référence. Vous pensiez à d'autres lectures ?
Alors, assez récemment, justement, Isabelle Filosa avec sa fille Margot, qui est également thérapeute et sexologue, je ne sais pas trop ce qu'elle est, mais bref, elles ont fait un bouquin qui s'appelle « Sexpérience ». Et c'est vraiment toute la période adolescente, avec tout ce que ça peut comporter, y compris la sexualité, vachement intéressant pour les parents et pour les ados. Il y a ce bouquin-là qui est vraiment chouette. On ne se comprend plus, tu viens de le dire. Et puis, pour mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau d'un ado, il y a le livre de Daniel Siegel qui s'appelle « Le cerveau adolescent ». Et ça, c'est intéressant pour les parents de le lire et aussi les ados pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer à l'intérieur, parce que c'est quand même notre cerveau qui nous emporte avec les décharges d'hormones et tout ça. Et du coup, de mieux comprendre ce qui se passe et que c'est pas... Je le fais pas exprès pour embêter le monde, quoi. Il y a ça à l'intérieur de moi qui existe et c'est important de le savoir.
Et puis pour finir, le petit décodeur de l'ado en crise de Anne-Claire Kleindienst, je ne sais pas si je le dis bien, et Linda Corosa, un livre qui est à la fois aussi un outil, à la fois théorique et pratique, avec de très jolies illustrations de l'auteur. Voilà, merci à vous.
On peut parler de l'actu un petit peu, du coup.
Ah oui, pardon, l'actu.
Ouais,
Valérie.
Alors, dès la rentrée, là, Grandir Ensemble, nous, on rattaque des ateliers, justement, spéciaux pour les parents d'ados sur la Com-Com de la Vallée de l'Hérault, donc Agnane, Gignac et Saint-André. C'est une fois par mois et c'est gratuit.
Voilà, et la prochaine date, je crois que c'est le 15 septembre.
Le 15 septembre, on redémarre le 15 septembre. Le 15 septembre, ça sera à Saint-André, il s'agit de s'inscrire, juste ça.
On s'inscrit sur quel site ?
Ouais, faut aller à la Com-Com. En fait, il y a un événement Facebook accessible à tous qui s'appelle Apéro d'ado.
Ouais, ça commence bien.
Ouais, ça s'appelle comme ça. On ne boit pas d'alcool, mais on boit un petit coup quand même, c'est sympa. Et puis sinon, c'est la rentrée, donc l'université de parents qui redémarre pour les parents, les ateliers de parents, enfin voilà. La formation en ligne Parentalie Clé qui va sortir dans l'automne.
Voilà. Merci Valérie Orvin, merci Béatrice Alvar, merci Anne-Marie Kstams d'être venue dans cette émission pour parler de l'adolescence. Merci Anne à la technique et à Radio Le Dev. Voilà. Et puis bon conseil de famille à tous. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.